Ce soir, pendant une heure, la CGT, rien que pour vous.
Eh bien, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue avec la CGT pour son émission mensuelle, une heure avec la CGT, ensemble. On va parler du sommaire. On a un invité aujourd'hui parce que c'est la fin de l'année. On va parler un peu argent, mais celui qui fait défaut pour le cadeau de Noël. Voilà, on va parler finances publiques avec notre invité qui est Samuel Mazon, qui se présentera un petit peu plus dans le sujet tout à l'heure. Le deuxième thème, on va finir le cycle de la fête des 130 ans de la CGT. Troisième thème, on va reprendre notre cycle qu'on avait bien engagé l'an dernier concernant le Rassemblement National, puisque c'est la force qui représente l'extrême droite, et notamment son imposture sociale. C'est une campagne que la CGT mène depuis juin 2023, et nous allons reprendre ces cycles. Ensuite, toujours dans les anniversaires, on parlera et des 100 ans de l'Union locale des syndicats CGT de Vierzon, et notamment de sa vie. Et puis on reviendra un petit peu sur les événements d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, une grande journée d'action de décembre, on y viendra un petit peu plus tard. Voilà, et puis quelques dates sur les agendas. Donc d'ores et déjà, une petite pause musicale avec une musique de Jean Ferrat, Dans la jungle et dans le zoo. Alors c'est une chanson qui a été écrite en 1991, qui figure au moins sur cet album, et qui est d'une actualité criante. Voilà.
Ainsi donc, il n'y aurait plus rien à faire qu'à mettre la clé sous la porte de ce château sombre et désert où gisent nos illusions mortes. Ainsi donc, vite fait serait l'inventaire de ces chambres abandonnées, au lit recouvert de poussière, au parquet noir de sang séché. Et sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie, tout demain devra disparaître, les choses que l'on a cru vraies. Et dans ce monde à la dérive, pareil aux autres animaux, nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, il n'y aurait plus rien à voir. Circulez, mais circulez donc. Ainsi finirait notre histoire sous le poids des malédictions. Ainsi donc, faudrait faire amende honorable, raser les murs, courber le dos, se résigner au pitoyable, errer de goulag en ghetto. Tout ne serait que simulacre, toute espérance sans lendemain. Rien ne servirait de se battre pour un monde à visage humain. Brûler tous les livres, redevenir des animaux, sans avoir d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Sans avoir d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. contre la faim, contre la haine, contre le froid, la cruauté de la longue quête incertaine pour affirmer sa dignité. Ainsi donc, ainsi donc, il nous faudrait tout renier de la bataille surhumaine que depuis l'âge des cavernes l'homme à lui-même s'est livré. Ne tirez pas sur le pianiste qui joue d'un seul doigt de la main. Vous avez déchiffré trop vite la musique de l'être humain. Et dans ce monde à la dérive, son chant d'amour et dit tout haut qu'il y a d'autres choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Qu'il y aura d'autres choix pour vivre que dans la jungle.
Donc de retour sur Radio Tintouin, 101.8 sur la bande FM, on va aborder le premier thème, donc les impôts. Alors, pour la CGT, pas de justice sociale sans justice fiscale. Un petit rappel historique sur ce qui a fondé la République, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, issue, elle, du siècle des Lumières et de la Révolution de 1789, et qui stipule en son article 13, je cite, « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Ceci étant dit, c'est aussi l'esprit qui animait les promoteurs du Conseil national de la Résistance, à savoir de participer en fonction de ses moyens et recevoir selon ses besoins. Ce qui a fonctionné jusqu'à présent pour la sécurité sociale peut facilement s'appliquer au fonctionnement de l'État, à condition que le financement soit correctement réparti, tant dans les recettes que dans les dépenses, pour le bénéfice du plus grand nombre. Et je rappelle qu'en ce moment, c'est la grande bataille au Parlement pour l'adoption du fameux budget. Pour le thème de ce soir, comment financer le fonctionnement de l'État ? On vous dira pas comment y échapper, hein, encore que, mais certains le font déjà aisément, nous allons le voir plus loin. Or aujourd'hui, il y a un paradoxe en France. Plus on s'enrichit, moins on paie d'impôts. On nous parle à longueur d'antenne dans les médias aux mains de l'oligarchie française, comme dans ceux des fois du service public d'ailleurs, puisqu'ils ont les mêmes invités, de la dette qu'on laisserait à nos descendants, que les finances de l'État sont au plus bas, etc. On a toujours eu droit au même chapitre, la France est en faillite. Hein. C'était même ça ce qu'avait déclaré un Premier ministre, alors un KPI est rarement en faillite. Les recettes employées, toujours les mêmes depuis des décennies, n'ont pas d'effet patent. L'austérité, la baisse des charges, alors qu'ils n'en sont pas d'ailleurs, je le rappelle, hein, ce sont des cotisations, la CSG et d'autres artifices fiscaux comme l'évasion, l'optimisation ou les paradis fiscaux, on développera peut-être un peu plus tard avec notre invité. Et pourtant, on constate que l'État stratège ne joue plus son rôle depuis très longtemps dans les grands projets, la réindustrialisation, le développement des services publics, la protection et la santé, etc. Et pourtant, la France a des richesses, produites principalement par le travail. Mais alors, la question que l'on se pose, où passe cet argent ? Pourtant, chaque année, effectivement, l'État collecte une manne d'argent non négligeable auprès des contribuables. Au fait, tous les contribuables, on le verra plus tard. Puis il le répartit, c'est ce qu'on appelle la redistribution. Financement des services publics, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, hein, c'est ce qu'on plaît à nous dire. Comment l'État répartit cette manne et le fait-il bien ? Il semblerait qu'une grande partie de nos concitoyens soit de plus en plus réservés, voire perplexes sur cette utilisation. La CGT l'est. Pourquoi payer des impôts ? Et quels impôts ? Comment s'utilise l'argent collecté chaque année par l'État ? Quelle redistribution se pratique ? Est-ce à tous les niveaux, du national au local ? Quelles sont les solutions pour améliorer le système de collecte ? Fraude, optimisation, évasion fiscale, est-ce légal ? Comment rattraper ceux qui s'échappent ou s'en exonèrent ? Juste pour rappeler que depuis 2008, les effectifs de la Direction Générale des Finances Publiques ont fondu comme neige au soleil. Quelques 30 000 unités, je crois, ont disparu. Donc sûrement moins de contrôle. Après ce constat, quelques interrogations et quelles revendications la CGT propose, tant sur la collecte que sur la redistribution. Nous allons essayer d'y voir plus clair avec notre invité ce soir, Samuel Mazon. Donc Samuel, tu vas te présenter succinctement, puis on va après rentrer dans le vif du sujet.
Oui, bonjour. Donc Samuel Mazon, je travaille aux finances publiques depuis quelques années maintenant, et à la CGT depuis quasiment autant de temps. Effectivement, en ce moment, on a des discussions en cours sur le budget. On ne sait pas encore s'il va être voté ou comment, mais on a quand même des idées de ce qui est prévu dans ce budget. Et ce qu'on peut voir, c'est ce que tu disais sur la répartition de l'argent. Déjà, on voit ce qui est envisagé par le gouvernement, par le Sénat, par une partie de l'Assemblée. On voit les postes de dépenses qui augmentent, ceux qui baissent. Et ce qui est frappant, c'est l'augmentation principale, c'est le budget de la défense. On le voit avec Macron qui nous a refait un truc sur un nouveau service militaire plus ou moins obligatoire. On voit aussi ce qui baisse, donc comme tu le disais, il y a notre budget à nous, celui des finances publiques, donc le budget qui sert à aller chercher de l'argent. L'an dernier, on a perdu 550 postes, là ça serait rebelote a priori pour 2026. Et comme tu disais, c'est nous qui sommes censés faire les contrôles, aller vérifier si l'impôt est correctement collecté. Et actuellement, c'est pas du tout le cas. Et ton intro, elle était bien parce qu'elle parle de la répartition de l'impôt, du fait que chacun est censé payer selon ses moyens. Et ce qu'on observe, c'est que la majorité des Français, quand on fait le total des prélèvements obligatoires, ils sont entre 45 et 55% d'impôts. Ça, c'est la grande majorité des Français si on prend tous les impôts, y compris la TVA, etc. Si on monte sur la minorité des plus riches, on tombe à 26%. Et si on part sur l'ultra-minorité, on tombe même jusqu'à 2% de leurs revenus économiques qui sont effectivement soumis à l'impôt. Et ça, c'est avec effectivement des stratégies d'évitement qui sont certaines de la fraude et d'autres qui sont légales et qui pourraient être modifiées par la loi. Et donc nous, quand on nous supprime du budget, c'est ces gens-là qu'on n'arrive plus à aller chercher ou qu'on arrive encore moins à aller chercher, parce qu'ils ont des stratégies d'évitement efficaces, qui demandent beaucoup de moyens d'investigation, des gens qui sont formés en droit, en économie, pour comprendre les mécanismes et aller farfouiller là-dedans. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur la partie recette, comme d'habitude, on prive l'État des moyens d'aller récupérer de l'argent chez ceux qui en ont le plus.
D'accord. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on gagne et moins on s'affranchit des besoins en matière de l'État. Parce que je rappelle quand même que ces gens-là, c'est pas des nuages, hein, c'est des personnes ou physiques ou morales, selon qu'elles soient dans les entreprises. Mais la législation s'applique pareil pour tout le monde. Et effectivement, alors différentes forces politiques, y compris syndicales, avaient proposé effectivement une espèce de revoir la répartition de l'impôt. Chaque citoyen doit participer à la vie de l'État, si petite soit-elle, mais il faut vraiment rééchelonner un petit peu ses tranches, hein, ce qu'on appelait ça, que le petit paye petit et que le gros paye gros. Et effectivement, on va le voir un peu plus tard, mais je pense notamment à la transmission du patrimoine, ce qui est quand même assez scandaleux. Pour certains, ils vont payer je ne sais combien de pourcentage, et pour d'autres, ça va être peanuts. Hein. Quand on parle un peu les... Je regardais les 25 milliardaires de plus de 70 ans en France, hein, possèdent 460 milliards. Bon, alors on leur souhaite longue vie, mais l'espérance de vie, même si tu es en bonne santé, de 70 ans pour bouffer 460 milliards, je vais dire, on va atteindre des records en matière de longévité. Or, ces milliardaires, ils s'acquitteraient, si la loi en restait là actuellement, à 40 milliards d'impôts de transmission, alors que s'ils étaient imposés comme les autres, ils s'acquitteraient de 200 milliards. Donc le différentiel, c'est 160 milliards. Je pense qu'avec 160 milliards, on arrive à faire vivre des services publics et on arrive à alléger un certain nombre de charges de l'État, quoi.
Alors, il y a une chose intéressante dans ce que tu disais, c'est le fait que cet argent, il est détenu par des gens. Et en fait, pas vraiment, c'est là toute l'astuce, c'est que l'argent est détenu par des entreprises. Et c'est là-dessus qu'ils insistent beaucoup, et on l'a vu pas mal, notamment avec les débats sur la taxe Zucman,
oui.
Où le but, c'était même pas de surtaxer les riches, parce qu'on parle d'une taxe de 2%, mais en fait, c'est même pas... on rajoute 2% aux plus riches.
C'était le différentiel, parce que certains, c'est... déjà, par exemple, sont imposés à 1,3, donc il suffisait de leur piquer 0,7.
C'est ça, exactement. C'était vraiment réaligner.
Mais le tollé général a été dire, on va nous piquer en plus des deux. Donc, des fois, l'information, c'est pour ça qu'il faut un petit peu la fouiller. On a un petit peu creusé dans les dossiers, et je crois qu'il faut le dire. Il faut être sérieux quand on annonce une information de cette nature.
Ce qui a cristallisé aussi pas mal les débats, c'est la question de la taxation des entreprises. Et c'est là-dessus qu'ils insistent beaucoup. Ils disent attention, si vous faites ça, vous allez taxer des entreprises qui ne pourront plus tourner, etc. Parce que les plus riches, leur stratégie, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas eux directement qui détiennent l'argent. Et c'est souvent ce qu'ils vous répètent. Ils disent non, regardez sur mon compte en banque, je n'ai pas X milliards.
Ouais, oui.
Effectivement, tout ça, c'est des actions, c'est des possessions d'entreprises, c'est des possessions aussi d'immobilier. Et c'est là-dessus qu'ils jouent. Donc c'est là-dessus qu'il faut aller essayer de les chercher en disant non. Alors sur la transmission, c'est pareil. On a la loi Dutreil qui permet d'exonérer énormément sur la transmission des entreprises.
Oui.
C'est aussi ça qui leur permet de payer très peu. Après, il y a toutes les niches fiscales.
Oui, alors les niches fiscales, je ne sais plus, on était à 2000 et quelques niches fiscales. Enfin bon, alors il y en a effectivement, peut-être qu'il faut conserver, mais il y en a d'autres. Et quand on regarde un petit peu dans ce que... Parce que de l'argent, ils en ont, je veux dire, ils en touchent. Hein, par les différents artifices comme le CICE et autres, hein, qui étaient déjà en vigueur sous Hollande, mais qui ont été poursuivis, enfin, mis techniquement en place par Macron à l'époque quand il travaillait pour Hollande, et puis après ça a poursuivi. Je veux dire, c'est quand même quelques dizaines de milliards qui partent par an, et dont il s'avère maintenant, selon certaines études d'économistes sérieux, que ça n'a aucun effet bénéfique sur l'emploi. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure.
Alors, effectivement, le CICE, ça a été mesuré. L'effet, il est soit nul, soit négligeable. Et en plus de ça, le CICE, donc c'est un crédit d'impôt compétitivité emploi, donc c'est des pertes de recettes pour l'État. Et ces pertes, elles sont compensées par la TVA. Actuellement, en grande partie, ces pertes sont compensées par la TVA. C'est-à-dire que l'argent qu'on fait gagner aux entreprises, c'est tout le monde qui paye au final sur la consommation.
Donc, remettre des emplois dans les impôts, c'est pas utopique, et ça permettrait effectivement de chasser un petit peu tous ces fraudeurs, parce qu'il faut appeler un chat, et puis ramener effectivement des finances nécessaires à faire fonctionner l'État. On développera dans une autre émission ce sujet. En attendant, on va faire une petite pause musicale avec ACDC, un groupe que l'on passe régulièrement ici sur Radio Tintouin.
We'll be right back.
Voilà, bien après cette petite respiration, nous allons reprendre sur Radio Tintouin notre rendez-vous mensuel. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est les 130 ans de la CGT. Alors, quelqu'un a dit « ne pas connaître son histoire nous condamne à la revivre ». Alors, un petit retour en arrière pour faire le lien avec la période que nous vivons aujourd'hui. Toute cette année a vu fleurir des événements pour fêter cette vieille dame encore debout que nous évoquions le mois dernier, la CGT. Et Vierzon n'a pas été en reste car les militants en ont profité pour fêter leurs 100 ans aussi de l'Union locale. Ça s'est passé le 18 octobre dernier avec une affluence raisonnable. On y reviendra dans une rubrique un petit peu plus détaillée le mois prochain. Voilà, donc la CGT vit sur Vierzon et en matière d'activité syndicale, elle est quand même relativement active. Donc pour en revenir aux 130 ans de la CGT, c'est en décembre 1895 qu'elle voit le jour à Limoges. Elle a traversé tout le XXe siècle avec des hauts et des bas, au hasard des mouvements sociaux ou politiques, sans oublier les plus graves comme les deux guerres mondiales. Les hauts moments, c'est 1936, 1968, 1995, pour ne citer que les principaux, qui restent des références dans l'avancée significative des droits des travailleuses et des travailleurs. Mais il y a eu aussi des bas, comme les scissions et la clandestinité, aux plus sombres heures de notre histoire nationale, entre 1939 et 1945, avec néanmoins une participation active aux travaux du Conseil national de la Résistance. Parce que je rappelle que Pétain avait interdit les syndicats, seuls deux existaient à l'époque, la CFTC et la CGT, et elles étaient toutes les deux parties prenantes aux discussions du Conseil national de la Résistance, dont on a encore quelques beaux héritages. Donc la CGT, elle affirme toujours aujourd'hui ses convictions démocratiques et républicaines sur des principes fondamentaux. Alors j'en ai retenu trois principaux, mais il y en a d'autres, concernant le syndicalisme. La CGT revendique et assume un syndicalisme de lutte dans la défense quotidienne des revendications concrètes des travailleuses et des travailleurs pour une vie meilleure et pour une transformation en profondeur de la société. Je dis malheureusement « défense » car la pression exercée par ce capitalisme ne nous permet pas suffisamment de parler de conquête dans cette période. C'est principalement celle-ci que nos détracteurs, ces conquêtes, combattent dans la défense de cette société capitaliste dont on mesure aujourd'hui les dégâts et dont le honteux comportement de milliardaires qu'elle génère, entre autres, dont la citoyenneté au sens républicain du terme resterait encore à démontrer. On l'a vu dans le sujet tout à l'heure. Depuis 1906, avec la charte d'Amiens de la CGT, elle affirme sa volonté d'indépendance, mais pas d'indifférence vis-à-vis du politique, et c'est en 1936 qu'elle l'inscrit dans le préambule de ses statuts. Alors si le texte revendique, je cite, « une indépendance absolue à l'égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques ou autres gouvernements extérieurs », fin de citation, ce préambule stipule aussi, je cite, « la neutralité à l'égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques, comme les réformes en vigueur ou à conquérir ». Fin de citation. Alors la CGT ringarde, organisation d'un autre temps, voyez comme ce texte reste d'une modernité sans pareil. En résumé, une CGT indépendante, mais pas neutre. Et pour preuve, à chaque grand rendez-vous important de notre histoire, elle a appelé à voter, notamment quand il s'agissait de faire barrage à l'extrême droite. Quelques exemples. En 1936, pour le Front populaire, entre 1939 et 1945, puis dans la clandestinité, souvent au prix du sang, elle s'oppose au régime collaborationniste de Vichy, soutenu par le patronat de l'époque, et les ligues fascistes, entre parenthèses, ce sont leurs héritiers aujourd'hui, les mêmes idéologues qui menacent la République. En 1974, pour le programme commun de la gauche, après plus d'un quart de siècle de domination d'une droite réactionnaire conservatrice, voyant là une possibilité de changer, enfin la société, ébranlée par les événements de 1968 et leurs avancées significatives en matière de droit syndical notamment. Puis en 2002, en votant Jacques Chirac, c'était pas de grand plaisir, mais c'était de voter contre le Front National de Jean-Marie Le Pen, qualifié pour le second tour de la présidentielle pour la première fois. Et en 2024, plus récemment, pour le nouveau Front populaire contre le Rassemblement national, héritier du Front national de Le Pen-Fille, Bardella et consorts, pour les empêcher d'arriver au pouvoir. Concernant le féminisme, un autre principe. Alors, ouvriers et employés des deux sexes. Cette référence est claire et figure déjà dans l'article 1er de ces statuts à sa création de la CGT. Avec l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et comme phare l'égalité salariale, vous voyez qu'on a raison de se battre parce qu'on en est encore loin, c'est toujours d'actualité. Bien que le contexte était plus difficile qu'aujourd'hui. Même si les femmes sont entrées de bonne heure dans la vie active, alors souvent de fois elles remplaçaient les hommes quand ils partaient faire de la chair à canon, et elles rentraient dans la vie active quand on a commencé à industrialiser la nation, elles descendaient dans les mines, dans les ateliers. Alors même si elles sont entrées de bonne heure dans la vie active, je disais, elles n'en demeurent pas moins que le retard et conséquent en matière de salaire. Pour autant, comme le rappelle Maryse Dumas, ancienne secrétaire nationale de la CGT, je cite, « La place des femmes dans le travail comme dans le syndicat n'est jamais allée de soi ». Fin de citation. Et c'est en 1999 que la CGT adopte la parité au sein de sa direction confédérale, et si le nombre de femmes syndiquées progresse, bien qu'encore minoritaire, 40%. Elle constitue près de la moitié des nouvelles adhésions et représente une force pour la bataille de l'égalité salariale et contre les violences sexistes et sexuelles. Philippe Martinez, secrétaire de la CGT en 1995, disait « La CGT n'est pas machiste, mais il y a trop de machos ». Bon, je pense qu'on peut partager un petit peu cette idée. Néanmoins, en 2023, c'est une femme qui lui succède à la tête de la CGT, en l'occurrence Sophie Binet, et la CGT tiendra son congrès national en juin 2026 dans notre belle région à Tours. Troisième principe concernant l'international. Le capitalisme s'est internationalisé parce que pas assez profitable au niveau du pays. La CGT l'avait fait depuis longtemps, mais à la différence près que l'internationalisme de la CGT défend les valeurs de paix entre les peuples, de démocratie, et notamment participative des salariés, et de solidarité entre les travailleuses et les travailleurs de tous les pays. C'est dans son ADN, et ça illustre bien sa volonté, de garantir les droits fondamentaux de tous les travailleurs sur la planète, de lutter contre leur mise en concurrence, et de créer les solidarités nécessaires au combat du monde ouvrier contre la domination mondialisée du capital. La CGT s'est mobilisée contre les deux guerres mondiales. Elle s'est engagée dans les brigades internationales contre le franquisme. On sentait monter le fascisme déjà en Europe. Régime fasciste espagnol. Elle a été bien qu'interdite en pointe dans la résistance, on l'a dit plus haut. Elle a été une farouche adversaire de la colonisation qui pèse encore dans nos esprits et que certains voudraient remettre au goût du jour sous d'autres formes. Car oui, le capitalisme est né du colonialisme et l'entretient sous d'autres formes. La CGT est favorable pour un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient pour que notamment travailleurs palestiniens et travailleurs israéliens vivent en paix et n'aient plus à souffrir de cette terrible situation. La CGT lutte contre les va-t-en-guerre de tout poil, car le passé nous rappelle qu'une économie de guerre est plus coûteuse en moyens financiers à un État et surtout en humains, et qu'elle n'apporte pas de solution à long terme. Sinon, ça se saurait. La CGT vient en soutien au mouvement des femmes en Iran, entre autres, qui résistent, y compris sous menace d'emprisonnement, au régime des Mollahs, et pour ne citer que ces cas-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc la CGT est très active aussi dans les institutions internationales, telles que la Confédération européenne des syndicats, telles que la Confédération syndicale internationale, ou encore dans l'Organisation internationale du travail. Je rappelle que c'est une branche de l'OIT qui règle, c'est une branche tripartite, et des fois on arrive à discuter difficilement, c'est composé de représentants des États, représentants des patrons et représentants des salariés. C'est difficile, mais on y arrive. Donc elle porte aussi, c'est la CGT, des projets d'aide et de développement économique à travers son association L'Avenir Social. Elle se bat pour la régularisation et le respect des droits des travailleurs migrants dans l'Hexagone. Alors oui, même si la CGT est d'un autre siècle, elle est tout à fait dans l'actualité de celui-ci. C'est pour cela qu'elle lutte auprès des salariés, des précaires, des privés d'emploi, des retraités. Bref, auprès de tous ceux qui sont malmenés par cette domination du capitalisme, avec ses fervents défenseurs, telle cette droite qui se recompose de plus en plus vers son extrême, laquelle extrême droite se révèle de plus en plus, non pas comme elle l'a prétendu, et le prétend de moins en moins d'ailleurs du côté du monde du travail, mais bien comme celle qui de jour en jour se dévoile de plus en plus comme son adversaire. Il ne passe pas un jour sans que soient révélées ces liaisons dangereuses avec le grand patronat, mais comme je vous disais en préambule de cette rubrique, n'oublions pas l'histoire si on ne veut pas qu'elle se renouvelle. Dans les années 30, déjà en pleine crise, certains criaient « plutôt Hitler que le Front populaire. Et petit rappel, Hitler est venu au pouvoir avec l'appui, entre autres, des grands industriels allemands qui avaient tout à y gagner. Business is business, dirais-je. Peu importe le pantin mis en place, et l'on voit où cela nous a conduits. Certains, aujourd'hui, devraient quand même se remémorer un peu ces pages d'histoire pour éviter que ça se reproduise. Eh bien, ce sont leurs dignes héritiers, animés de la même veine fasciste qui prétendent arriver au pouvoir en France, même si le discours est édulcoré, plus polissé, à la fin, le résultat sera le même. Alors oui, pour toutes ces raisons, la CGT a le devoir de résister à cette vague brune, mais seule, elle ne pourra pas y parvenir. C'est pour cela qu'elle prône l'unité d'action, mais ce ne doit pas être uniquement qu'un alignement de sigles, mais bien un mouvement ample et responsable, plus fort encore que celui qui a prévalu dans la bataille contre la réforme des retraites. Certes, si les résultats ne se font encore attendre, de son côté la CGT n'a pas trahi son engagement, alors oui, ce n'est que dans l'unité la plus large, sans gommer les différences de chacun, que l'on y parviendra. Seul on avance vite, mais à plusieurs, on va plus loin. À bon entendeur, salut! Donc maintenant, une petite respiration musicale avec une nouveauté de Jean-Louis Aubert, « Tout y est ». Voilà, bien après cette pause musicale, nous allons reprendre nos entretiens. Une heure avec la CGT, vous êtes toujours sur Radio Tintouin, 101.8 sur la bande FM. Alors on va reprendre, je le disais en sommaire, notre cycle sur le Rassemblement National. On vient d'en parler, mais on va rentrer un petit peu plus en détail sur cette imposture sociale qu'elle représente. Alors on poursuit nos chroniques sur l'imposture sociale que représente donc le Rassemblement National et ce qu'il prétend défendre. Le peuple, comme il dit, c'est-à-dire, c'est pour nous à la fois vaste et flou. et de temps en temps, comme ça l'arrange, il se dit le parti des travailleurs. D'où la nécessité, de temps en temps, de se replonger dans notre histoire, car je l'ai déjà dit, et il faut le répéter, si on ne la connaît pas, on est condamné à la revivre. La CGT s'est toujours opposée aux idées de régression, de division et de haine. C'est dire si cette lutte qui nous oppose à l'extrême droite, sous quelque forme qu'elle se manifeste, n'est pas récente et doit continuer. Certes, cela demande de l'énergie et de l'explication, et nous y reviendrons autant de fois que nécessaire. Aussi, l'engagement de la CGT contre l'extrême droite s'est illustré au cours du XXe siècle à diverses reprises. C'est pas nouveau. Souvenons-nous, sans remonter trop loin, revenons en 1934, alors que la France, un peu comme aujourd'hui, traverse une crise profonde, à la fois politique et institutionnelle, des ligues d'extrême droite organisaient déjà une manifestation contre les institutions de l'État et montaient à l'assaut de l'Assemblée nationale. Le soir de cette manifestation, dénombrait 15 morts et 1435 blessés. Quelques jours plus tard, la CGT réagit, se mobilise et organise une grève massive contre les menaces de fascisme et pour la défense des libertés publiques, ce qui provoquera un réveil démocratique qui débouchera en 1936 sur le Front populaire. Pendant la guerre 39-45, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la CGT est interdite par le pouvoir de Vichy, dont les hommes de main, la milice entre autres, poursuivent ses militants. Ces mêmes factieux rêvent d'une revanche de 34. Malgré cela, la CGT poursuit le combat pour la libération de la France et est active au sein du Conseil national de la Résistance. Pendant la guerre d'Algérie, autre période de troubles, l'extrême droite alimente les rangs de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, une organisation qu'on pourrait facilement classer de fasciste et voire de paramilitaire, et qui est opposée à l'indépendance de l'Algérie, jusqu'à semer la mort. La CGT est encore en première ligne pour s'opposer au pouvoir colonial, et ses militants comptent encore parmi les victimes. En 2002, comme en 2024, la CGT appelle à faire barrage à l'extrême droite, parce que oui, c'est une organisation dangereuse. Aujourd'hui, le langage est plus tendre, mais qu'on ne s'y trompe pas. On a repeint le magasin, mais on y vend toujours la même chose qu'avant, la division, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, la haine de l'autre. Comme le résume l'Institut d'histoire sociale CGT, je cite, « Il s'agit là d'une longue tradition cégétiste de prise de position, électorale notamment, lorsque l'extrême droite a pu se rapprocher d'un peu trop près du pouvoir. » La CGT respectueuse de sa charte d'Amiens, qui réclame à ses militants de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'ils professent en dehors, exclut, et ça s'est déjà fait, de ses membres, ceux figurant sur des listes électorales d'extrême droite. Aujourd'hui, il y a des similitudes avec ce passé pas si lointain et non glorieux, enfin pour eux. La presse de Bolloré, en bon catholique, et c'est pas ce qu'on lui reproche, fait appel à Adrien Zeller. Alors, pour rappel, Adrien Zeller est le petit-fils d'un des quatre généraux putschistes pendant la guerre d'Algérie. Et il le nomme à la tête de sa chaîne CNews. Bon, certes, on n'est pas responsable des actes de ses ascendants, mais quand on s'en réclame, je crois qu'il faut qu'on assume. Et là, on passe un cap. Alors oui, la CGT continuera à le crier haut et fort. L'extrême droite en France est dangereuse pour les travailleuses et les travailleurs. Et sa principale composante, le Rassemblement National, est désormais aux portes du pouvoir. Cela reste bien une imposture sociale et pourrait s'affirmer en imposture politique. Plus récemment, Jordan Bardella, le nouveau patron du Rassemblement National, est invité, comme beaucoup de personnalités, aux universités d'été du MEDEF, dans le rayonnant cadre du stade Roland-Garros. Alors c'était pas pour taper la petite balle jaune, mais c'était pour y parler de son programme. Il a tenu à rassurer les grands patrons dans son éventuelle arrivée aux affaires de la France, ce qui ne doit pas nous laisser indifférents et inquiéter les millions de travailleuses et de travailleurs qui souffrent de ces politiques menées par le grand patronat avec ses thuriféraires institutionnels en matière de salaire, d'égalité salariale, de droits sociaux en permanence grignotés, alors que l'argent public les arrose généreusement à coups d'exonération. Petite parenthèse. Je tiens à ouvrir la parenthèse. Les deux quinquennats de Macron ont été parmi les plus agressifs en matière de répression syndicale et régressifs en matière de droits syndicaux, mais particulièrement clément à l'égard du patronat. Avoir les chiffres effarants des dividendes alors que les salaires stagnent, voilà un terreau favorable au populisme dont le RN se repaît. La CGT est et sera là pour expliquer, mobiliser pour appuyer toute politique, comme elle l'a fait en 2024, qui verra la vie des Français améliorée, leur santé préservée, au travail comme dans leur sphère privée, les garantira d'une meilleure sécurité avec une police nationale redéployée au plus près des citoyens et non des officines privées de sécurité comme cela fleurit dans les pays où l'extrême droite est au pouvoir. Donc à la CGT, nous continuerons à expliquer cette imposture sociale car il y va de l'intérêt de toutes et de tous, il y va aussi de notre survie. Donc amplifions la lutte et surtout, on ne lâche rien. Petite pause musicale avec une nouveauté, Fabien Roussel.
Gaëtan
Roussel. Oh là là. Lapsus révélateur, non pas, mais c'est bien. Chanteur de Louise Attaque, hein, en attendant. Voilà. Et Gaëtan Roussel qui fait un petit parcours solo depuis quelques années. Et on va retenir, on écoutera un des titres de son dernier album, Je reste là.
Le regard dans le vide, parfois le nez en l'air, c'est le hasard qui me guide depuis hier. Je ne sais plus qui décide, la peur ou la colère, et l'envie en moi réside de laisser faire. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire, et moi je reste là. Oui, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois. J'avance sans avoir une idée de direction, je m'égare. On est parfois de l'argile, juste un grain de poussière. Tout est, c'est vrai, si fragile, éphémère. Et tu emportes sans doute loin de moi nos souvenirs et le son de ta voix. Oui, tu emportes, c'est vrai, loin de moi notre histoire, et moi je reste là. Oui, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Et tu emportes pour la dernière fois, c'est bien pire dans ton cœur qui bat. Oui, tu emportes, c'est vrai, cette fois notre avenir, et moi je reste là. Oui, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Oui, je reste là, et je me dis qu'un jour ça reviendra. Je suis le seul, je crois. Je suis le seul, je crois.
Voilà, après cette petite pause musicale, nous allons reprendre le cours de notre émission. Vous êtes toujours sur Radio Tintouin, 101.8 Bande FM. Et on a évoqué la vie de la CGT. Pour certains, c'est encore, j'espère que ce n'est pas nébuleux parce que ça existe, mais on va développer sur la vie proprement dit de l'Union locale. Je rappelle qu'il a fêté ses 100 ans tout à l'heure. Et qu'est-ce que l'Union locale des syndicats CGT de Vierzon? Eh bien, Samuel, je te laisse dérouler un petit peu le sujet.
Alors effectivement, comme tu disais, on a fait une journée spéciale portes ouvertes mi-octobre pour accueillir tous les gens qui voulaient voir un peu nos locaux, découvrir un peu notre histoire. C'était une journée que j'ai trouvée très réussie. On a eu pas mal de monde. Les retours étaient très positifs sur l'organisation, sur ce qui était présenté. Et le but, c'est donc de faire découvrir cette union locale qui a une histoire, mais qui continue à vivre, comme tu disais, avec toujours une permanence qui est assurée, notamment pour une aide juridique pour les travailleurs et travailleuses qui se retrouvent en difficulté vis-à-vis de leurs employeurs, avec des manifestations qui sont organisées comme aujourd'hui, donc le jour où on enregistre le 2 décembre, pour protester contre le budget. Donc on peut dire qu'à Vierzon, la CGT, elle est motrice, clairement, des mobilisations sociales. Donc oui, on est présent dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de secteurs d'activité, et on fait vivre un peu la défense des travailleurs.
D'accord. Alors, l'union locale, pour décrire, c'est une cinquantaine de syndicats d'entreprises, quand même, donc c'est pas rien, hein, et 10 sections de retraités, parce que oui, effectivement, on peut se syndiquer en retraite. On a toujours des revendications en tant que retraité, d'ailleurs c'est le but de la journée d'action du 2 décembre, enfin l'un des buts, hein. Mais et puis que quand on est en retraite, on est potentiellement, quand on est actif, on est potentiellement retraité, donc ça concerne tout
on
le
espère.
Monde. Hein. Les retraites concernent aussi les actifs, hein, de par le mécanisme des cotisations. Voilà, et je rappelle que constitutionnellement, c'est pas interdit de monter un syndicat, alors... Le contexte n'est pas toujours facile pour installer un syndicat dans une entreprise, mais il faut rassurer nos auditeurs et nos auditrices, c'est pas illégal, au contraire.
Et puis ça peut être le but justement de l'union locale aussi, d'accompagner des gens qui voudraient monter un syndicat dans leur entreprise. Il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter, voilà, pour demander s'ils ont besoin de renseignements sur la manière de faire, sur des aspects juridiques. Voilà, on peut aider là-dessus aussi.
Alors, je rappelle, c'est bien un lieu de rencontre où les salariés, syndiqués ou pas d'ailleurs, hein, peuvent venir pour s'organiser face au patron ou responsable d'entreprise. Alors, c'est pour préparer des négociations salariales, pour négocier ou élaborer des protocoles électoraux, hein, pour avoir des représentants du personnel, ou encore monter un syndicat, comme on vient de le dire. Hein. Alors, quelle que soit la taille, le domaine d'activité, partout où il y a des salariés, il peut y avoir un syndicat. Alors, c'est jamais trop difficile, hein, vous pouvez être aidé. Si vous rencontrez des difficultés, comme tu l'as dit, effectivement, vous pouvez pousser la porte. Alors, je vais rappeler les coordonnées. L'adresse, c'est 11 rue Marcel Perrin.
C'est ça, à Vierzon.
Hein, à Vierzon. Vous pouvez laisser... appeler au téléphone, des fois, si on n'est pas toujours en permanence, mais il peut y avoir un répondeur. C'est le 02 75 05 43. Pour les plus modernes, on va dire, il y a le courriel, hein, cgt.ul.vierzon@wanadoo.fr, et vous pourrez y rencontrer des militants, des militantes, hein, qui seront à même de vous éclairer. Voilà. Alors, sachant qu'on dispense aussi des formations, hein, on peut former principalement des syndiqués, mais on a eu des salariés qui sont venus se former. Hein. On a des cycles de formation, comment fonctionner une entreprise, comment on démonte la société, comment monter un syndicat, voilà, comment monter un tract. Voilà, il y a tout un tas d'activités. La CGT intervient auprès des représentants de l'État. Alors avant, c'était le sous-préfet. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais là, on intervient pour faire remonter un certain nombre de revendications, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Alors, je rappelle deux permanences. Hein. Le lundi matin, de 9h à 12h, ça, c'est pour tous les renseignements. Et il y a une permanence plus spécifique en ce qui concerne les problèmes juridiques. Hein. C'est le mercredi matin, de 9h à 12h. Donc, lundi matin et mercredi matin, 9h-12h, n'hésitez pas, poussez la porte du 11 rue Marcel Perrin et on vous accueillera avec grand plaisir. Merci. Bien, petite pause musicale, on va passer Bella Ciao, alors une des versions nombreuses, hein, puisque on parlait tout à l'heure d'antifascisme et autres, et je crois que ça tombe tout à fait bien, on passera donc Bella Ciao.
Una mattina, nessun svegliato. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Una mattina mi son svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Hey! Una montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se perire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
Reprendre le cours de nos discussions. Emmanuel Macron, tous les ans, réunit sous les ordres de la République des grands patrons. Et le rendez-vous est déjà, c'est déjà le troisième de l'année. Ce sera le dernier pour lui, je pense. Et ce rendez-vous, effectivement, était basé sur attirer des grands investisseurs pour relancer notamment l'industrie. Et c'est le terme de notre dernière rubrique aujourd'hui. Samuel, je vais te laisser en parler. La reprise se fait attendre.
Ah, effectivement, la relance économique tant vantée par les tenants du pouvoir se fait attendre, mais elle n'est pas sans conséquences. La CGT tient son baromètre des fermetures d'entreprises. Depuis 2 ans, les plans de licenciement ne cessent de s'étendre à l'ensemble du territoire et apparemment aucun secteur n'est épargné. En 2 ans, c'est plus de 100 000 emplois supprimés ou menacés avec les répercussions sur les emplois induits et la vie des territoires. Au premier trimestre 2025, on parle de 82 usines qui ont fermé, ce qui est presque le double de celles qui se sont créées, c'est-à-dire 44. Une autre donnée collectée par l'assurance maladie confirme ce marasme industriel. Entre 2003 et 2023, dans 2 secteurs que sont la métallurgie et la chimie pour ne citer que, c'est moins 15%. Pour la première, soit plus de 300 000 salariés, et 15% pour la seconde, soit près de 80 000 salariés. Cette casse sociale signe l'échec de la politique de l'offre prônée par la Macronie, faite de démantèlement du droit du travail et de cadeaux fiscaux aux entreprises dont l'efficacité n'a jamais été prouvée. Une étude récente de l'Institut d'études politiques vient de montrer l'absence d'effet mesurable de la baisse des impôts de production, on parle quand même de 10 milliards par an, sur l'investissement des entreprises. Fort de son inventaire, la CGT a été reçue à Bercy le 30 octobre dernier et a réclamé au ministère de l'Industrie, je cite, « une stratégie ambitieuse de réindustrialisation pour tourner la page de la Macronie ». La CGT a rappelé qu'il fallait rompre avec le soutien public sans condition au patronat, orienter les financements vers l'outil productif, les créations d'emplois, les salaires, la qualification, la décarbonation et le développement des territoires. Comme vous le voyez, rien n'est acquis d'avance et la lutte doit s'amplifier davantage pour changer ce monde finissant qui gâche des énergies tant naturelles qu'humaines. Ce que la CGT ne manquera pas de faire toujours dans l'unité la plus large.
Merci Samuel. Et bien maintenant, voilà, donc on arrive au terme de cette émission. Ceci étant, on va se quitter en vous souhaitant, puisque c'était la dernière de l'année et qu'on se reverra qu'en janvier, de bonnes fêtes de fin d'année. Avant, on appelait ça la trêve des confiseurs, on n'en parle plus, ça veut dire que le capitalisme n'est jamais en trêve, mais nous non plus, donc on restera vigilants et mobilisés. mobilisés. Pourquoi ? Eh bien, pour se rassembler et surtout ne rien lâcher. Donc, bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci Samuel d'avoir partagé les micros.
Merci de m'avoir
avec moi.
Reçu.
Merci aux techniciens d'avoir fait des prouesses. Et on se quitte avec un petit dernier titre qui va s'appeler Boulevard désert. Bonne année à toutes et à tous, bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Prochain rendez-vous le 13 janvier sur les ondes de Radio Tintouin.
Je pars quand le jour se lève, la tête, la valise remplie de rêves. Qui joue à pincer mon cœur quand s'éloigne trop vite le train vapeur. J'ai mille fois le courage de partir, mille et une fois l'envie de revenir. Quand je suis perdu, vous êtes ma boussole qui guide mes peines et qui me console. Cette route est peut-être la mienne, des allers-retours à l'infini. Il est temps, oui, que je revienne. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison. Personne ne m'a dit de partir. La dernière chose que je veux, c'est trahir. C'est vrai, je donne moins de nouvelles, mais j'oublie pas ce qu'on nomme les fidèles. Et j'imagine ce que font les amis, les discussions de ceux qui sont jamais partis. Et quand arrive l'orage, le déluge, vous êtes mon équipage, mon refuge. Cette route est peut-être la mienne, des allers-retours à l'infini. Il est temps, oui, que je revienne. C'est ici chez moi, et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien. Je rentre à la maison. Encore un jour où je suis si loin. Encore un tour, un dernier train je crois. Encore un jour mais dès demain je reviens chez moi. Encore je cours soir et matin. Encore un tour, c'est un peu vain tout ça. Encore un jour et je reviens. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. J'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. Je n'oublie pas d'où je viens. Je rentre à la maison. C'est ici chez moi et je rentre à la maison. C'est là que je suis bien.